Géopolitique.
Toufik Benaïchouch.
Bonjour, Géopolitique est consacrée cette fois aux Philippines, un pays constitué de plus de 7000 îles et ses îles s'étendent du nord au sud sur 1800 km et d'est en ouest sur plus de 1100 km. Dès lors, comment faire pour gérer un pays dans ces conditions? Les Philippines qui élisent ce lundi un nouveau président, une nouvelle chambre des représentants et aussi un nouveau Sénat entre autres. Et de curieux candidats sont en lice dont beaucoup traînent encore des affaires de corruption et de malversation, voire de meurtre. Enfin, les Philippines, un pays déchiré par des guérillas sanglantes, parfois vieilles de plus de 40 ans, sans compter le terrible Abu Sayyaf. Et enfin, et aussi un pays qui occupe une position maritime stratégique, ce qui en fait un des plus sûrs alliés des États-Unis et un des pires ennemis de la Chine. Pour tenter de mieux comprendre ces problématiques avec nous, nos invités, Benoît de Tréglaudet, bonjour. Vous êtes directeur du programme Asie de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire.
Bonjour.
Vous avez coordonné le numéro de la revue Hérodote consacré aux enjeux géopolitiques de Vietnam. Et vous avez rédigé avec Nathalie Faux l'ouvrage à paraître aux éditions CNRS, Coopération maritime et sécurité en Asie du Sud-Est. Bonjour.
Bonjour.
François-Xavier Bonnet, vous êtes géographe, vous êtes chercheur associé à l'IRASEC et consultant. Vous rédigez chaque année le chapitre consacré aux Philippines dans l'ouvrage « L'Asie du Sud-Est, bilan, enjeux et perspectives ». Plusieurs de vos travaux sont aussi publiés en ligne et vous avez participé entre autres à l'ouvrage collectif « Philippines contemporaines » publié par l'IRASEC et les Indes savantes. Et surtout, vous vivez sur place à Manille depuis 16 ans. Et puis Sophie Boisseau-Durocher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé au Centre Asie de l'IFRI. Vous êtes également auteur de l'Asie du Sud-Est prise au piège, un ouvrage paru aux éditions Perrin. Et dans ma présentation, je vous ai gardé pour la fin parce que je voulais vous donner la parole tout de suite. Sophie Boisseau-Durocher, un pays avec 100 millions d'habitants, avec deux langues officielles, c'est vrai, mais 150 langues et dialectes parlés. Un pays éparpillé entre plus de 7000 îles, ça se gouverne comment? Est-ce que ça se gouverne comme un autre pays aujourd'hui ou pas? Je veux dire, est-ce que cette contrainte géographique physique, ou peut-être même l'histoire, ou les deux, ont créé un mode de gouvernement particulier, un système politique particulier ou pas aux Philippines?
Oui, certainement. On ne peut pas dénier, si vous voulez, l'influence de cet éparpillement géographique et d'une histoire qui a été une histoire très particulière entre une colonisation espagnole puis une colonisation américaine sur la façon d'appréhender le politique et d'organiser le politique. Alors, il est vrai que cet éparpillement incite, je dirais, à une certaine autonomie politique des grandes îles. Il y a environ 5-6 grandes îles aux Philippines et les autres sont des îles mineurs et cet éparpillement a donc incité les autorités centrales à Manille à donner, à octroyer de facto une certaine autonomie politique aux dirigeants de ces îles. Pendant la colonisation espagnole, Manille s'appuyait notamment sur les ordres religieux. Et puis, pendant la colonisation américaine, ce sont les grands propriétaires terriens qui ont pris le relais. Ce qui fait qu'on aboutit à une structure politique qu'on pourrait qualifier de féodale. Et c'est vraiment un des points importants qui ressort quand on étudie les mécanismes et les procédures politiques aux Philippines. C'est l'importance de certaines familles qui tiennent littéralement les îles, à la fois sur le plan politique, parce qu'elles sont à la tête des institutions, que ce soit les mairies, les députés ou autres, mais également sur le plan politique, puisque souvent, elles contrôlent l'accès aux ressources. Donc, cette structure féodale est, à mon avis, la caractéristique première des jeux politiques philippins.
François-Xavier Bonnet, vous qui vivez à Manille depuis plus de 16 ans maintenant, les Philippines vont donc aux urnes ce lundi pour élire les représentants de leurs institutions. Alors, combien de partis politiques comptent le pays? Combien sont-ils en lice?
Alors, il est très difficile, en fait, de parler de partis politiques aux Philippines. On peut plus parler de coquilles vides qui, en fait, sont des institutions, des groupes ou des associations qui œuvrent pour faire gagner une personnalité, un membre d'une famille éminente qui voudrait se présenter au présidentiel ou vice-présidentiel ou même au sénatorial. Et ces partis politiques vont s'allier, fusionner pendant un certain temps. Et après, vont, à la fin des élections, vont disparaître pour se recomposer les élections suivantes. Donc il est assez compliqué de parler du nombre de partis politiques. Par contre, on peut parler de coalitions, d'un certain nombre de coalitions, comme l'actuelle coalition autour du vice-président Jean-Marc Binaï, qui est l'UNA, qui est en fait la coalition de plusieurs partis politiques. Vous avez autour du candidat Marc Roras, vous avez le Parti libéral qui, lui, est plus un parti au sens plus occidental du terme. Par contre, vous avez plusieurs candidats au présidentiel ou au vice-présidentiel qui sont indépendants. Vous avez par exemple Myriam Defensor Santiago, qui est une sénatrice et qui actuellement est la dernière dans les sondages, mais qui est indépendante et qui en fait a quitté l'ancien parti nationalista dont elle faisait partie.
Oui, alors François, on va revenir un petit peu plus en détail sur les candidats les plus marquants de cette campagne, mais pour le moment, à Manille, comment se déroule cette campagne? Est-ce que c'est une campagne violente ou pas? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le climat de ces élections?
Généralement, aux Philippines, la violence accompagne la campagne électorale. Mais cette fois-ci, on n'a pas encore les chiffres. La police et l'armée n'ont pas encore donné des chiffres officiels. Mais ce qu'on sait, c'est que par rapport à l'année 2010, qui était donc l'élection présidentielle précédente, le nombre de victimes a fortement diminué, fortement chuté. Non pas que les Philippins soient devenus moins violents que précédemment, mais parce qu'en fait, la plupart de la violence se déroule au niveau local, pour les élections locales, donc de la province jusqu'à la municipalité. Et dans ces niveau administratif, il y a eu beaucoup plus de candidats qui sont présentés seuls, sans aucun compétiteur pour telle ou telle municipalité. C'est que comme il n'y avait pas de concurrence, la violence n'avait plus lieu d'être. C'est juste un côté technique.
Oui, alors Sophie Boisseau-Durocher, depuis 86, depuis que la foule avait renversé Ferdinand Marcos aux Philippines, les élections dans ce pays, c'est toujours des élections mouvementées?
Non, ça n'a pas toujours été des élections mouvementées. En 92, par exemple, il y a eu un passage de relais relativement soft, hein, stable, entre Madame Aquino et Fidel Ramos, le président Ramos. Donc ce n'est pas toujours été le cas. Mais néanmoins, la violence politique est un ressort évident du jeu politique philippin. Et c'est précisément du fait de ces coalitions d'intérêts dont parlait François-Xavier Bonnet, on a là des intérêts assez puissants qui se confrontent, et donc le ressort politique est un ressort facile, si vous voulez. Maintenant, se pose un autre problème, c'est que le débat politique étant relativement vide, la politique spectacle ou la politique violence l'emporte le plus souvent. Et c'est un des travers de la démocratie philippine. On dit souvent que les Philippines sont une démocratie parce qu'ils ont un jeu électoral. Alors certes, mais néanmoins, cette démocratie est vidée de sens du fait d'un rapport aux politiques qui est ou violent ou spectaculaire. Et on voit dans la dernière campagne, dans la campagne qui est en train de se terminer là, on voit à quel point le candidat Rodrigo Duterte a véritablement, comment dire, maîtrisé les médias, maîtrisé les effets d'annonce médiatique et donc a mené cette course, si vous voulez, médiatique pendant la campagne. De ce fait, a vidé encore plus les propositions politiques des autres candidats.
Très bien. Alors, on revient vraiment dans quelques minutes sur les candidats et la campagne. Mais avant tout, Benoît de Tréglaudé, des élections suivies, surveillées aussi par les voisins des Philippines. Alors, lesquels et pourquoi?
Oui, le premier des voisins à suivre de très très près en fait ces élections, c'est naturellement la Chine. La Chine n'a jamais eu autant de difficultés avec les Philippines que sous le mandat de Aquino. Et donc, c'est clair qu'à Pékin, l'entourage de Xi Jinping attend avec une impatience certaine ce changement électoral, comme avec de nombreux pays en Asie du Sud-Est, avec ses voisins, ils n'ont pas influé directement, en fait, naturellement, sur le processus et sur les débats au sein de l'archipel philippin. Mais l'intérêt qui a été porté par l'administration chinoise sur le changement de pouvoir est certain.
Et du coup, un autre pays très loin des Philippines, les États-Unis, eh bien,
alors,
sont aussi...
Traditionnellement, on l'a dit, la relation des États-Unis avec les Philippines est compliquée, est ancienne, et parfois chaotique. Mais c'est vrai que sous Obama, les Philippines Philippines ont retrouvé leur, on va dire, leur terrain de meilleur allié des Américains en Asie du Sud-Est. Et il se trouve que le contexte géopolitique de l'année est extrêmement intéressant et il a mis en avant les questions internationales dans comme étant un enjeu politique de ces élections avec le rapprochement et la signature le mois dernier par les Américains d'un nouvel accord avec les Philippines pour l'ouverture et le stationnement de bases aux Philippines.
Géopolitique.
Alors nous reviendrons sur tout cet aspect géostratégique et les alliances que ça implique, mais pour le moment, attachons-nous maintenant aux candidats. Donc, en vertu de la Constitution, le président sortant Benigno Aquino, que vous évoquiez, ne peut se présenter cette fois. En revanche, il y a deux ex-présidents qui se représentent, mais commençons d'abord par Rodrigo Duterte, qui est sans doute le candidat le plus haut en couleur, et en plus c'est le favori. François-Xavier Bonnet.
Rodrigo Duterte, en fait, c'est un candidat local à l'origine, qui a été pendant 22 ans le maire de Davao City, et qui a, avant d'être élu le maire en 1990, était un journaliste de radio et de télévision, et qui était très proche du peuple, de la population de Davao, et qui, en fait, s'est aperçu que le maire précédent ne s'intéressait pas du tout à la population. Et donc, quand il a promis via la télévision et la radio, un programme qui allait nettoyer l'ensemble de Davao City de tous ces criminels et rétablir l'ordre public dans la municipalité. Très rapidement, il est devenu extrêmement populaire. Et une fois élu, il a utilisé des moyens drastiques pour arriver à ses fins. En fait, entre le milieu des années 90 jusqu'en 2014, environ 1424 personnes ont disparu. Soit on a retrouvé leur corps ou ont disparu, mais ont été éliminés. Et c'était en fait une technique qui visait, en utilisant la police et l'armée locale, de dénoncer les barangay captains, c'est-à-dire les chefs locaux dans les villages, étaient tenus de faire une liste des personnes un peu, soit des criminels, soit des personnes qui revendaient de la drogue. Et cette liste-là devait être réactualisée quasiment tous les jours et envoyée après au maire de Davao, donc au maire Duterte. Et celui-ci, après, lisait la liste de ces différentes personnes incriminées et leur donnait en fait 3 semaines pour se réformer. Au bout de 3 semaines, si ces personnes-là n'avaient pas quitté leur village ou leur appartement ou autre, la police venait les chercher et à ce moment-là, leur corps disparaissait. Alors, donc cette technique par la terreur a fonctionné.
Oui, François-Xavier Bonnet, ce candidat-là ne fait pas dans la dentelle, mais il a quand même des choses à son actif, notamment d'avoir un petit peu stabilisé les choses avec la guérilla du Front Moro, non?
Alors oui, ça c'est le deuxième niveau. Donc là, c'était pour la criminalité. Et le deuxième niveau, c'est en fait pour stabiliser, en fait pour neutraliser les différents mouvements rebelles qui étaient sur le territoire de Davao City. Vous avez jusqu'à maintenant plusieurs mouvements rebelles qui sont présents. Vous avez le premier, c'est le NPA, le National People's Army, qui est en fait le bras armé du Parti communiste. Le deuxième mouvement assez important, c'est le MILF, le Moro Islamic Liberation Front. Et le troisième mouvement un peu moins important, c'est le MNLF, le Moro National Liberation Front. Ils sont donc localisés à différents endroits de la municipalité, généralement dans les montagnes d'ailleurs de la municipalité. Et la tactique du maire Rodrigo Duterte, c'était de passer des alliances avec ces différents groupes, les différents leaders, en leur expliquant qu'ils avaient le droit, ils étaient autorisés à traverser ou même à rester dans cette municipalité, à condition en fait qu'ils laissent leurs armes dans leurs villages respectifs.
Alors il a aussi promis aux communistes des portefeuilles ministériels s'il était élu.
Ah, ça c'est beaucoup plus tard, là c'est actuellement. En fait, c'est parce que le processus de pacification a duré au moins une dizaine d'années. Maintenant, en tant que candidat à la présidentielle, et en fait, il était en contact avec José María Cizón, qui est donc le chef et le fondateur de du Parti communiste philippin, et qui est en exil en Hollande, et donc il communiquait par Skype. Le maire Rodrigo Duterte a promis non seulement un processus de paix avec le Parti communiste, mais en plus d'éventuellement, après ce processus de paix, de prendre des ministres communistes dans son gouvernement.
Sophie Boisseau-Durocher, il se murmure que l'armée aurait recours éventuellement à un coup d'État si Rodrigo Duterte était élu. Pourquoi est-ce que l'armée philippine a l'habitude de s'immiscer dans les élections dans ce pays ?
Alors, écoutez, l'armée philippine a eu effectivement un rôle politique important, notamment au moment de la loi martiale, hein, imposée par le président Marcos, donc ça date d'il y a 30 ans, et puis elle a progressivement perdu ce rôle politique. Il est évident que l'inquiétude autour d'une victoire électorale de Rodrigo Duterte pourrait inciter l'armée à réinvestir le champ politique, et il n'est pas impossible que pour ce faire, elle ait même l'appui des États-Unis. Donc voilà, effectivement, il y a une rumeur. Je crois néanmoins que pour l'instant, la popularité du candidat est telle que cela générerait certainement des mouvements de rue et conduirait les Philippines vers beaucoup d'instabilité. Donc je crois qu'il faut être prudent néanmoins sur ce scénario.
Alors il y a d'autres candidats ou en couleur, je l'ai évoqué tout à l'heure, beaucoup ont des affaires, traînent des affaires de malversation, voire même de meurtre. Est-ce que ça veut dire que dans ce pays, il y a une certaine impunité pour les dirigeants ?
Alors ça, c'est sûr qu'il y a à la fois une certaine impunité, hein, du fait précisément de ce système féodal, si vous voulez, les plus forts protègent les plus forts ou protègent leurs clients, hein, de façon subsidiaire. Et puis parce que le respect du droit est une chose encore très très éloignée des réalités philippines. Et c'est précisément, je crois, ce qui inquiète énormément, c'est-à-dire que on voit bien que le succès obtenu par Duterte à Davao est un succès qui est dû à une politique répressive très dure, à la limite de la légalité. Quand le candidat prétend transférer ses méthodes au niveau national, on peut effectivement s'inquiéter de l'impact que cela aurait sur la conception de l'ordre, de la paix et du droit aux Philippines. Donc, si vous voulez, il y a véritablement une angoisse nouvelle aujourd'hui aux Philippines, c'est-à-dire que non seulement on peut avoir des candidats un peu spectaculaires, hein, on en a déjà eu, Estrada a été un président entre guillemets spectaculaire, mais là, on va encore plus loin, parce que non seulement ils sont spectaculaires, et on l'a vu dans les effets d'annonce du candidat, mais en plus, ils prétendent appliquer des méthodes qui sont des méthodes, je dirais, de grands bandits ou de mafieux. D'une certaine façon, on pourrait quand même qualifier Duterte d'un bandit, si vous voulez.
Alors, mais il y a d'autres candidats aussi qui sont en passe de remporter ces élections, en tout cas qui sont favoris et qui traînent vraiment des affaires.
Oui, j'ai Jomar Binay, par exemple, qui a été accusé de corruption, hein, quand il a été maire de Makati. Donc ça c'est effectivement aussi quelque chose d'inquiétant.
François-Xavier Bonnet, quels sont les candidats qui ont réellement des chances d'être élus, de sortir vainqueur de ce scrutin?
Juste après Duterte, vous avez Crespo, qui a atteint, au dernier sondage, qui a 22%. Crespo, 22%. Et c'est une des favorites de cette course présidentielle, et qui en fait a eu énormément de problèmes, puisqu'elle a vécu une bonne partie de sa vie et travaillé, et elle a eu la nationalité américaine, et son mari travaillait pour l'armée américaine, pour la marine nationale américaine. Donc pendant un certain temps, on ne savait pas si elle allait pouvoir se présenter à la présidence. Finalement, la Cour suprême a statué et a expliqué qu'elle avait la possibilité de se présenter. Son environnement est beaucoup plus show business, puisque sa mère et son père sont de grands acteurs. Enfin, son père est mort. Fernando Po Jr. était un grand acteur et un grand ami du président Estrada. Et il a été candidat au présidentiel en 2004 contre Gloria Macapagal-Arroyo. Et il a perdu contre cette présidente. Et il est mort quelques temps après. Et donc, Grace Po, dans un premier temps, voulait en fait montrer que la famille Po était capable de gagner la présidence de la République aux Philippines, en fait, en mémoire de son père.
Très bien, je vous rappelle, excusez-moi, c'est juste pour dire que Géopolitique consacrée aux Philippines, eh bien, nous revenons sur toutes ces questions, le temps d'écouter et un nouveau journal sur RFI.
Géopolitique.
Toufik Benaïchouch.
Vous écoutez Géopolitique consacré cette fois aux Philippines, un pays constitué de plus de 7000 îles. Les Philippines qui élisent ce lundi un nouveau président, une nouvelle chambre des représentants et aussi un nouveau Sénat. Un pays déchiré par plusieurs guérillas sanglantes, parfois vieilles de plus de 40 ans. Un pays également qui occupe une position maritime stratégique, ce qui en fait un des plus sûrs alliés des États-Unis et un des pires ennemis de la Chine. Pour tenter de mieux comprendre toutes ces problématiques avec nous, Benoît de Tréglaudé, vous êtes directeur du programme Asie à l'IRSEM et vous avez coordonné entre autres le numéro de la revue Hérodote consacré aux enjeux géopolitiques du Vietnam. Et vous avez rédigé aussi avec Nathalie Faux l'ouvrage qui paraîtra fin 2016 aux éditions CNRS, Coopération maritime et sécurité en Asie du Sud-Est. François-Xavier Bonnet, vous êtes chercheur associé à l'IRASEC et consultant. Vous rédigez chaque année, entre autres, le chapitre consacré aux Philippines dans l'ouvrage L'Asie du Sud-Est, bilan, enjeux et perspectives. Plusieurs de vos travaux sont aussi publiés en ligne et vous avez participé, entre autres, à l'ouvrage collectif Philippines contemporaines, publié par l'IRASEC et les Indes savantes. Et puis Sophie Boisseau-Durocher, vous êtes chercheur associé au Centre Asie de l'IFRI et vous êtes auteur aussi de l'Asie du Sud-Est, prise au piège, paru en 2009 aux éditions Perrin. Alors nous avions qui ont les candidats un peu haut en couleur et ceux qui ont vraiment de la chance d'emporter ce scrutin. François-Xavier Bonnet, parlez-nous de Géraldine Roman. C'est une candidate transsexuelle, c'est quand même curieux dans un pays éminemment catholique.
Effectivement, ça peut surprendre, mais quand on regarde le pedigree de cette personne, on s'aperçoit qu'elle est aussi membre d'une quasi-dynastie familiale, de la famille Roman, qui est en fait de père en fils et de mère en fille députée de la province de Bataan. Et donc, ça n'est pas une personne qui est sortie du peuple et qui grimpe comme ça, mais c'est une personne qui a tout un entourage familiale qui l'aide à monter et à se présenter aux élections des députés à l'Assemblée nationale. Et par ailleurs, la famille Roman a une très bonne réputation auprès de la population pauvre de la province. Donc ça aide aussi, une très bonne réputation, une famille qui est une famille politique de la province. Et donc la population qui a été interrogée à son propos a dit qu'elle n'était absolument pas gênée par son transgenre, mais plus par les activités que la famille avait pu réaliser au cours de leur journée politique.
C'est ce que nous expliquait au début Sophie Boisseau-Durocher. Vous nous expliquez que tous les candidats étaient liés à un clan plus qu'à un parti. Sophie Boisseau-Durocher, intéressons-nous à présent aux voisins des Philippines et d'abord et avant tout, Mani fait partie de l'ASEAN. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que représente l'ASEAN, vous qui avez écrit un ouvrage consacré à cette question?
Alors l'ASEAN, c'est l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, hein, qui est une association qui a été créée en 1967 et qui regroupe aujourd'hui 10 pays d'Asie du Sud-Est. Cette association s'est lancée en décembre 2015, dans l'élaboration d'une communauté qui se décline sur 3 piliers, pilier politique, pilier économique et pilier social. Donc les Philippines sont membres de cette association. C'est un membre un peu marginal, hein, du fait précisément de leur positionnement géographique, mais c'est un membre important parce que, d'abord, c'est un pays qui a quand même près de 100 millions d'habitants, donc la deuxième population à égalité à peu près avec le Vietnam, hein, après l'Indonésie, et qui est un pays effectivement où le champ politique est un champ, on le voit précisément, très ouvert. Et donc qui tranche avec certains pays comme Brunei, comme Singapour ou comme le Vietnam. Donc si vous voulez, sur le plan politique, les Philippines, en dépit de toutes les déficiences, ont aussi quelque chose à apporter à l'association et tout le monde suit avec intérêt les élections. Voilà, c'est un point important. Certains candidats ont une expérience déjà de cette ASEAN, hein. Je pense par exemple à Mar Roxas, qui est le candidat numéro 3 aujourd'hui dans les sondages, qui est un ancien ministre de l'Intérieur, qui est un technocrate et qui a déjà éprouvé, je dirais, les procédures ASEAN. En revanche, des candidats comme Graspo ou comme Rodrigo Duterte n'ont pas d'expérience internationale. On peut donc s'inquiéter de leur appréhension des enjeux régionaux dans un archipel qui est déjà assez compliqué et dont le champ politique domestique a suffisamment de quoi les occuper pendant les prochaines années.
Oui, effectivement. Alors Benoît de Tréglaudet, vous qui vous intéressez aux questions de géostratégie dans la région, quel rapport entretiennent les Philippines avec l'ASEAN ?
La première chose, Sophie l'a rappelé, les Philippines sont un membre fondateur de l'ASEAN en 1967. Ils ont toujours été présents autour d'une coalition, rappelons-le, qui a été créée pour se confronter et résister à l'influence du communisme en Asie.
Donc ils ont éprouvé très tôt, les Philippins, le besoin de trouver des alliés dans la région.
Très tôt, mais c'est pas pour ça qu'ils ont réellement activé, on va dire, avec beaucoup de dynamisme, leur participation au sein de l'association. Je donnerai un seul exemple. En 2013, lorsque l'administration Aquino décide de se retourner vers la Cour permanente d'arbitrage de La Haye pour présenter son dossier et protester contre la ligne des neuf traits de la Chine en mer de Chine méridionale, ils ne se sont pas concertés avec le secrétariat général de l'ASEAN, ils ont fait cela seuls, de leur côté, ce qui leur a été reproché par l'association.
Les neuf traits, ça mérite des explications.
Oui, en 2009, la Chine a présenté sa nouvelle carte, en fait, de la zone auprès de l'ONU, qui lui permet de revendiquer 80% des eaux de la mer de Chine méridionale en tant que mer intérieure. C'est ça qui est à l'origine, en fait, d'un contexte géopolitique aujourd'hui qui est très compliqué et qui est très intéressant dans le cadre de ces élections. On a évoqué le fait que Duterte n'était pas connu pour son expérience, on va dire, sur les dossiers internationaux. Est-ce que, d'une certaine façon, ça n'arrangerait pas certaines nations, en fait, de la zone, d'avoir à la tête de cet État quelqu'un plus facilement, d'une certaine façon, manipulable ? Duterte n'a pas d'expérience internationale et les Philippines vont traverser, et l'Asie du Sud-Est, d'une certaine façon, une zone de turbulence attendue avec le verdict qui va être proposé ce mois-ci. Normalement, on l'attend pour le mois de mai, de la Cour permanente d'arbitrage à La Haye, qui va, oui ou non, condamner la position chinoise en mer de Chine méridionale. Et c'est là tout l'intérêt de la question.
Sophie Boisseau-Durocher, le titre de votre ouvrage, c'est « L'Asie du Sud-Est prise au piège ». De quel piège vous parlez ? Et ce piège concerne-t-il les Philippines ?
Oui, alors s'il s'agissait du piège du développement, c'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment qu'il y a une croissance dans ces pays, mais qu'il n'y a pas obligatoirement développement. Le développement est une notion très différente de celle de la croissance, et le développement intègre précisément également le développement politique. Et donc c'est intéressant parce que les Philippines, et on le voit là avec les élections actuelles, on voit que le bilan du président Aquino est plutôt un bilan positif, hein, c'est un bilan correct. Il y a une vraie reprise économique, on parle même des Philippines comme le prochain tigre. On voit un bilan positif sur le plan de la stabilité intérieure avec des négociations qui ont été menées avec le Bang Zamoro. On voit également des négociations avec le Parti communiste. On voit qu'il y a eu un rapprochement avec les États-Unis. Donc, si vous voulez, il y a aujourd'hui un bilan qui néanmoins est remise en cause par des candidats qui pourraient d'abord remettre directement sur la sellette les décisions qui ont été actées par l'administration Aquino, mais surtout qui pourraient réintroduire une instabilité et une incertitude préjudiciable à la croissance et au développement dans la région, et surtout aux Philippines. Donc si vous voulez, il est vraiment important de bien comprendre qu'aujourd'hui, les Philippines sont victimes de leur propre insuffisance démocratique et que cette insuffisance démocratique a un coût en termes d'économie. Et c'est précisément ce qui inquiète énormément les investisseurs philippins d'une part, qui aujourd'hui réexpédient leur épargne vers des marchés plus sûrs, et puis évidemment les partenaires étrangers.
Oui,
donc il y a une incertitude qui pose problème.
Alors, une position plutôt délicate pour les Philippines, c'est quoi ? C'est la Chine, pour parler un petit peu légèrement, qui veut croquer les Philippines, Benoît de Tréglaudet ?
Les Américains sont convaincus qu'ils vont pouvoir mener un front uni contre la Chine en Asie du Sud-Est et que leur position pourrait être entendue par l'ensemble des États. Le problème, c'est qu'on a évoqué le fait que 80% de la mer de Chine méridionale est revendiquée par la Chine. Mais parallèlement à cela, le Vietnam en revendique 65%, et les Philippines une partie, et la Malaisie une autre, et le Brunei une autre, et Taïwan encore. Donc, L'enjeu aujourd'hui des Philippines, c'est d'essayer de convaincre et de mettre en place des coopérations militaires, pour l'essentiel avec ses partenaires de l'ASEAN. Et c'est ça qu'il faut regarder. Le commandement américain a dit qu'il encourageait la formation de patrouilles communes entre les forces armées et les marines d'Asie du Sud-Est, mais sur le terrain, ça ne marche pas. Cette semaine, les Indonésiens, les Philippins et les Malaisiens se sont entendus pour mettre en place des patrouilles communes dans le sud du pays pour lutter contre le crime transnational, pour lutter contre les activités d'Abu Sayyaf et de terrorisme. Mais rien n'a été dit sur la zone concernant en fait ce litige territorial autour des Spratly. L'idée du front commun est quelque chose qui est un enjeu de relations internationales, discuté à Washington comme à Pékin. Et pour être concret, le seul pays aujourd'hui au sein de l'ASEAN qui a signé un partenariat stratégique sur ces questions avec les Philippines, ce sont le Vietnam. Et c'était fin novembre 2015, donc quelque chose d'assez récent. Maintenant, nous nous interrogeons tous, ce texte va-t-il être suivi par des faits concrets? Est-ce qu'il peut y avoir un rapprochement
avec d'autres pays?
Est-ce que la position des Philippines ne sera pas trop isolée?
En somme, c'est une guerre très dure mais très sourde donc qui se déroule pour le contrôle de ces îles en mer de Chine.
Le problème, c'est que il n'y a pas une position positive ou négative. Il y a 10 positions différentes sur la zone. Les États sont conscients qu'ils auront du mal d'abord à s'entendre avant de faire le jeu d'une rivalité Chine-États-Unis.
Alors, des alliés encombrants, des rivaux déterminés, on vient de le voir, mais les Philippines font face également à des guerres intérieures, à des guérillas sans fin. Serait-on tenté de dire, les deux plus importantes sont sans doute celles menées par le Front Moro de Libération Nationale et par les partisans d'Abu Sayyaf. François-Xavier Bonnet, comment cette lutte contre le terrorisme est-elle possible et influe-t-elle la campagne?
Alors, il y a des effets directs. Par exemple, l'un des candidats à la vice-présidentielle, qui est Bongbong Marcos, le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos, a en fait surfé sur la vague du terrorisme pour essayer de se faire élire. Car en fait, en 2015, normalement, le gouvernement Aquino devait signer un accord de paix et la création d'une région autonome avec les musulmans du Moro Islamic Liberation Front. Et en février 2015, lors d'activités antiterroristes menées par des forces spéciales de l'armée des Philippines, l'objectif étant de capturer deux terroristes malaisiens, 44 policiers des forces spéciales ont été massacrés par différents groupes de la province de Maguindanao. Ce massacre, en fait, a créé un électrochoc dans la nation. Et très rapidement, le Parlement et le Sénat ont décidé de créer un comité d'enquête sur cette question-là. Et du côté du Sénat, c'était donc le sénateur Marcos qui en était le chef. Et à partir du moment où il a pris le contrôle de cette commission, il a tout fait pour ralentir le processus de paix, en expliquant qu'en fait, la plupart des acteurs qui devaient participer à cet accord de paix n'avaient jamais été consultés par l'administration Aquino et par le MILF. Et donc, il a en fait bloqué tout accord de paix. Et sous le choc de l'émotion, la population en fait l'a soutenu en quelque sorte.
François-Xavier Bonnet, donc, la guérilla sans doute la plus sanglante et la plus spectaculaire, menée par Abu Sayyaf, où est-ce qu'elle se mène cette guerre? Et le gouvernement, les autorités philippines ont-elles des chances d'en venir à bout?
C'est extrêmement difficile. Il n'existe pas réellement un groupe Abu Sayyaf. Vous avez plusieurs clans qui se réfèrent à Abu Sayyaf. Mais il y a une partie des clans Abu Sayyaf qui sont sur l'île de Sulu et l'autre partie sur Basilan. La partie Basilan d'Abu Sayyaf semble se tourner petit à petit vers l'État islamique de Syrie et d'Irak. Par contre, l'autre faction qui est sur Sulu ne s'est pas encore rapprochée officiellement de l'État islamique. Et les otages en fait occidentaux et malaisiens se trouvent dans la partie Sulu, dans la région de Patikul. Et ce sont en fait des groupes qui sont plutôt des kidnappeurs plutôt que des idéologues de l'islam.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une myriade de petits groupes qui se réclament de la même étiquette.
Exactement.
Et ça complique les choses. Donc.
Ça complique les choses et l'armée en fait n'a pas beaucoup d'informateurs sur le terrain pour savoir qui a fait quoi et qui a pris qui.
Oui.
Et en fait, bon, l'armée américaine essaie de former les troupes philippines, mais ça va prendre un temps assez important.
Ceci Boisseau du Rocher, oui.
Le terme à retenir pour le climat de sécurité intérieure aux Philippines est celui de volatilité. Hein, on a vraiment une volatilité qui rend le contrôle de ces groupes, que ce soit Abu Sayyaf, le NPA ou autre, très difficile. Voilà. Et donc, il faut vraiment une autorité politique et une légitimité politique pour tenter de venir à bout de cette instabilité chronique.
Benoît de Tréglaudet, vous lui avez ajouté quelque chose?
Non, juste un mot. Il me semble que l'un des enjeux, effectivement, dans un avenir proche, c'est de voir comment les élites aux Philippines et la population aux Philippines s'entendront dans leur rapport avec les États-Unis. L'influence américaine, ce n'est pas uniquement une histoire de proximité avec l'élite dirigeante, c'est également une relation beaucoup plus chaotique avec la population. Et le rapport à la Chine est équivalent. Je pense que nous sommes dans une démocratie chaotique, le terme a été utilisé, et l'avenir des positionnements géopolitiques dépendra aussi de cet équilibre.
Alors, Sophie Boisseau-Durocher, un mot, puisqu'on arrive au terme de cette émission. Les grands défis auxquels auront à faire face les Philippines dans les années à venir?
Je pense que le premier défi, c'est celui, on l'a vu, de la stabilité ou de l'instabilité. Premier défi, donc, de l'union nationale, effectivement, de cet archipel éparpillé. Le second défi, qui n'est pas moindre, c'est celui de la pauvreté. Vous avez quand même encore aujourd'hui 25% de la population philippine qui vit sous le seuil de pauvreté. Le troisième défi, c'est probablement celui de la stabilité politique, et j'intègre dans stabilité politique le respect de l'état de droit, le respect des procédures et la légitimité de l'état central. Je pense que c'est un grand défi. Et puis, effectivement, un environnement régional harmonieux et constructif, à la fois au sein de l'ASEAN, mais également avec la Chine, qui a beau jeu de travailler les différences nationales et les faiblesses nationales aux Philippines.
Donc il y a des défis intérieurs et des défis extérieurs à relever.
Voilà.
On arrive au terme de cette émission. Géopolitique, donc consacré aux Philippines, je vous le rappelle. Le dernier mot reviendra à François-Xavier Bonnet, qui est à Mani, donc sur place. François-Xavier Bonnet, est-ce que ces dimensions de lutte ou de défis à relever qu'a évoqué notamment Sophie Boisseau-Durocher, est-ce que ce sont des enjeux que la population identifie vraiment?
Oui, tout à fait. Alors, il y a un projet de Rodrigo Duterte qui est particulièrement intéressant. C'est celui de transformer les Philippines en une fédération de provinces, enfin d'États, ce qui permettrait, dans son optique, de permettre une région autonome ou un État autonome des musulmans et d'avoir en fait d'autres régions comme les Visayas qui seraient aussi plus autonomes par rapport à Mani, qui est le centre non seulement des affaires, mais aussi le centre politique. Évidemment, il serait obligé de changer la constitution et il risque de s'opposer en fait à beaucoup de députés et de sénateurs. Donc il avait expliqué qu'en fait, si le Sénat ou le Parlement refusait de suivre son projet, il serait capable en fait de dissoudre l'Assemblée nationale. Et donc à ce moment-là, de diriger d'une main de fer, un peu comme un dictateur, le pays et de forcer la fédéralisation du pays sur la population sans son acquiescement. C'est un des projets particulièrement intéressants de Rodrigo Duterte.
Donc des événements à suivre et puis des défis à relever dans ce pays. Géopolitique était consacré cette fois aux Philippines. Je remercie nos invités, Sophie Boisseau-Durocher. Je vous rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre Asie de l'IFRI et que vous êtes également l'auteur de L'Asie du Sud-Est prise au piège, paru en 2009 aux éditions Perrin. Il y avait avec nous aussi François-Xavier Bonnet, que vous venez d'entendre, qui est géographe, qui est chercheur associé à l'IRASEC, qui est consultant également et qui rédige même chaque année le chapitre consacré aux Philippines dans l'ouvrage L'Asie du Sud-Est, bilan, enjeux et perspectives. Et puis avec nous dans nos studios, à nos côtés, Benoît de Tréglaudet, vous êtes directeur du programme Asie à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. C'est vous qui avez coordonné le numéro de la revue Hérodote consacrée aux enjeux géopolitiques du Vietnam et qui avait rédigé aussi avec Nathalie Faux l'ouvrage à paraître aux éditions CNRS intitulé Coopération maritime et sécurité en Asie du Sud-Est. Je remercie tous les auditeurs. Je remercie surtout également Nathalie Laporte, sans qui cette émission n'aurait pas pu se dérouler dans de bonnes conditions. Merci.